Alors, bonjour et merci d'être venu à cette rencontre consacrée aux collections chinoises de la Bulac. Donc, c'est une manifestation organisée par la Bibliothèque des langues et civilisations. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Soline Suchet, qui est responsable adjointe du pôle collection et précédemment chargée des collections chinoises à la Bulac. Dat Willow, qui est actuellement chargé des collections chinoises, et Vincent Durand-Dastès, qui est enseignant-chercheur à l'INALCO, que vous connaissez sûrement, et également chargé de cours à l'Université de Genève, et un spécialiste de l'histoire du roman et du théâtre chinois. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir plus précisément les collections chinoises et le processus de constitution de ces fonds. En fait, le fonds chinois est une composante importante de la Bulac puisqu'il représente plus de 70 000 documents en langue occidentale et chinoise. Et donc nous voulions savoir, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Datui, quel volume représente ce fonds et comment se répartit-il aujourd'hui dans les salles de lecture?
Ben en fait, allô, oui. Toute personne qui a fait un tour en salle de lecture de la Bulac se rend compte que effectivement le fonds chinois est un des plus importants. En fait, cela est dû au fait que l'enseignement du chinois et surtout les études chinoises sont très importantes en France aujourd'hui et que les effectifs à l'INALCO pour le chinois n'arrêtent pas
d'augmenter
chaque année, en fait.
Ouais. Alors, juste, je ne sais pas si on entend très bien. Vous entendez bien ou pas? Parce que tu as bougé ton micro. Voilà, ne le touche plus.
Faut que je sois vraiment en face, d'accord.
Okay. Voilà. Et donc, c'est un fonds qui est assez important puisque c'est 11 000 volumes en libre accès. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'organisation du libre accès à la Bulac?
En fait, les 11 000 volumes sont partagés en trois niveaux. Le niveau rez-de-chaussée qui est le niveau études. Donc majoritairement pour les non-spécialistes et les étudiants de premier cycle. Donc ce sont beaucoup des ouvrages de référence, des dictionnaires, des manuels, de la littérature, qui sont assez faciles d'accès.
Donc ça représente 25%, enfin non, 25%.
Ça représente en fait 2900 voilà. Ouvrages. Et vu que donc c'est pour un niveau plutôt élémentaire, il y a seulement 25% de la collection qui est en chinois.
D'accord. Et au niveau recherche, ça se
passe comment? Ensuite, au niveau recherche, donc on a 6200 ouvrages, dont 80% qui sont en chinois. Et c'est plus pour les étudiants de second cycle, donc master, doctorat et surtout recherche. Pardon, excusez-moi. Et en fait, à ce niveau-là, en fait, nous sommes plus spécialisés sur comment on appelle ça, le fonds traditionnel de la Bulac, donc qui se concentre sur la littérature, la philosophie et l'histoire.
D'accord. Et on trouve aussi des documents comme des monographies locales.
Oui, des monographies locales qui sont effectivement une grosse partie de notre fonds en histoire.
Et ça correspond à quoi, en fait, des monographies locales?
En fait, comment est-ce qu'on peut dire ça? Ce sont des ouvrages qui sont donc spécifiques à certes. Quoi. Là, dans le cas de la salle de lecture, ce sont à des régions spécifiques. Et ça parle donc de l'histoire dans ces régions, dans les localités de ces régions.
Mais ce sont des documents qui sont édités, en fait, par le gouvernement chinois, en fait. Ce sont des documents axés sur des territoires précis. Et il y a deux espaces aussi dont on n'a pas parlé, qui sont la mezzanine.
Oui, effectivement.
Donc sur lesquels on trouve...
La mezzanine, en fait, on trouve une petite collection de DVD, beaucoup de revues et de journaux sur les actualités et à terme,
un
espace d'auto-formation de langue.
Voilà. Et donc, dernier espace qui va bientôt être actif, l'espace de la réserve qui sera bientôt ouvert avec tous ses services. Mais pour l'instant, vous allez y retrouver des documents sur l'histoire du livre et de l'imprimerie.
Notamment. C'est ça, oui, c'est ouais. Au même niveau que le niveau recherche, donc Ré de Jardin. Et effectivement, ce sont des dictionnaires, des catalogues et des études sur l'histoire du livre et de l'imprimerie.
D'accord.
Donc c'est pour faciliter en fait les recherches et l'étude des livres qui se retrouvent à la réserve chinoise.
D'accord. Est-ce que on peut attendre des améliorations en ce qui concerne le libre accès? Parce que pour l'instant, vous avez une vision, peut-être que vous avez remarqué que certaines choses manquaient ou qu'en tout cas, vous étiez dans l'attente de plus d'exemplaires. Est-ce que ça va changer dans les mois à venir
En fait, pour l'instant, donc, il reste des trous dans la collection, dans les collections chinoises, parce que une partie de la sélection libre accès a été faite parmi à partir des magasins. Donc il reste quelque chose comme 2000 ouvrages qui doivent encore être traités par la reliure.
Donc ce sont des ouvrages, 2000 ouvrages, c'est l'équivalent du libre accès études. Donc vous imaginez tout le fonds chinois, l'équivalent du libre accès études va être présent d'autres ouvrages, le même métrage linéaire en fait.
Et vu que la sélection libre accès a été faite vraiment par discipline, les disciplines de la philosophie, de la linguistique.
C'est-à-dire qu'on a. Alors, si, ouais. Par discipline, ça veut dire qu'on a commencé par sélectionner des ouvrages en histoire, par exemple. Je ne sais pas par quoi on a commencé. Vas-y, Soline.
Plus exactement, dans les premières années, la sélection a été faite toutes disciplines confondues. Et les trois dernières années, il y a eu un travail d'homogénéisation, en fait, pour essayer d'avoir des disciplines cohérentes. Puisqu'au début, la sélection a été faite un peu au petit bonheur la chance. Et les trois dernières années, il y a eu un travail systématique sur chaque discipline. Et donc, on a travaillé discipline par discipline. Et les dernières disciplines sur lesquelles on a travaillé, c'était justement la linguistique, la philosophie et la religion. Sachant que les disciplines telles que les arts et les sciences et techniques ne font pas partie de notre politique documentaire. Donc, on a quelques ouvrages dans ces disciplines, mais vraiment, vraiment très peu.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la sélection? Comment est-ce que vous avez travaillé en fait pour la sélection?
En fait, la sélection libre accès, on a des problèmes de deux ordres. En fait, on a des problèmes pratiques. C'est-à-dire que la sélection a commencé en 2006. Donc, c'est-à-dire que entre 2006 et aujourd'hui, il y a 5 ans.
Ouais.
Donc, il était difficile, vu que l'objectif était d'avoir 11 000 ouvrages en libre accès. Il était difficile d'acheter de 11 000 nouveaux ouvrages. Donc, il a fallu sélectionner en magasin.
Et donc, il a fallu sélectionner parmi 70 000 ouvrages.
C'est ça, tout à fait. Et vu qu'il est difficile de trouver des bibliothécaires spécialisés en chinois, on n'a pas tout le temps eu la même personne en fait en poste. Donc, la cohérence était assez difficile à
maintenir.
Trouver, en fait,
ouais. D'accord. Et donc les collections en libre accès, c'est une partie des collections chinoises. Maintenant, on va plutôt parler des collections en magasin. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de visiter nos magasins lors des journées portes ouvertes, en voici un petit extrait. Donc en magasin, finalement, qu'est-ce qu'on trouve, Soline?
Alors effectivement, les collections que l'on a en libre accès, ça ne représente qu'un cinquième des collections que l'on a en magasin. En magasin, on a à peu près 50 000 documents en langue de Chine et 20 000 documents en langue occidentale sur la Chine. Alors quand je parle de 50 000 documents en langue de Chine, c'est difficile à dire parce qu'en fait, en raison des spécificités de l'édition chinoise qui publie beaucoup de collections, on a parfois un seul titre qui correspond à des centaines, voire à des milliers de volumes. Donc,
par exemple,
le terme de 50 000 n'est pas très très précis. En fait, on est incapable à l'heure actuelle de vous dire exactement combien de titres et combien de volumes on a, tout simplement parce qu'au fur et à mesure des acquisitions, parfois on notait dans les inventaires seulement le titre et vous pouviez avoir 500 volumes qui suivaient, et parfois on notait chaque titre de chaque volume. Par ailleurs, parler de collection chinoise, c'est un peu traître, parce qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de langue de Chine, puisqu'en fait, on achète des documents qui sont édités en Chine continentale, à Taïwan et à Hong Kong, et que bien sûr, si la production éditoriale en caractère chinois prédomine, on a aussi des documents dans les langues qui sont parlées sur le territoire chinois et donc qui peuvent donner lieu à l'édition de documents dans ces langues. On a par exemple des ouvrages en tibétain, des ouvrages en mongol, en ouïghour, en mandchou, en cantonais, en hakka, en yi, en hachi, enfin un grand nombre de langues. Alors parmi ces langues, il y en a certaines qui ont été, dont les documents ont été rattachés à d'autres domaines pour des raisons géographiques ou historiques, comme le tibétain, le mongol. Le Ouïghour, lui, si vous cherchez du Ouïghour, vous le retrouvez plutôt avec les collections d'Asie centrale. Donc en libre accès, on le trouvera dans les 22 ou 23, je ne sais plus exactement, la classification géographique de l'Asie centrale. Par contre, tout ce qui est les dialectes chinois, vous les retrouverez. Il n'y en a pas beaucoup encore au niveau du libre accès, mais on a quand même quelques ouvrages en cantonais, en akka, et vous les trouverez bien dans le domaine chinois.
Et donc si on revient sur l'histoire du fonds, comment est-ce que ce fonds s'est constitué à la Bibliothèque des langues orientales, puisqu'avant d'être la BULAC, notre établissement était principalement constitué des fonds de la Bibliothèque des langues orientales.
Oui, c'est une chose qu'il faut préciser effectivement, parce que le projet BULAC, son but était de rassembler en un même lieu les collections de la plupart des bibliothèques et centres de documentation spécialisés dans les langues orientales. Donc ça a marché pour certains fonds, notamment les fonds slaves, les fonds indiens, les fonds iraniens. Pour le chinois, ça n'a pas tellement marché. Donc effectivement, le fonds chinois de la BULAC vient en grande partie de l'ancienne bibliothèque interuniversitaire des langues et civilisations orientales, bien que l'on ait eu des dépôts et des dons en quantité différente, mais quand même assez faible de la part, mais précieux, de la part de l'EFEO, quelques-uns du LCAO, et puis du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine.
D'accord. Et donc, à quand débutent les acquisitions en langue chinoise, en fait ?
Alors, en fait, du coup, c'est extrêmement lié à l'histoire de l'INALCO et de son ancêtre, l'École spéciale des langues orientales vivantes. Paradoxalement, même si le fonds chinois est l'un des plus importants, enfin c'est un des fonds phares maintenant de notre bibliothèque, en réalité, l'enseignement du chinois à l'école spéciale des langues orientales vivantes est arrivé tardivement, puisqu'elle a été fondée en 1795 et que le chinois n'est enseigné qu'en 1843. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cet enseignement du chinois n'était pas spécialement, voire pas du tout voulu par l'école à l'époque, mais a été imposé par le ministre de l'instruction publique de l'époque, qui était Villemain, suite à l'opportunité que représentait l'ouverture de la Chine suite au traité de Nankin en 1842. Il y voyait une opportunité d'ordre politique et commercial que le gouvernement ne voulait pas rater, et pour ça il fallait former des interprètes. Donc c'est à partir de ce moment-là simplement qu'on a commencé à acheter des ouvrages en chinois. Mais autant vous dire que c'était compliqué à l'époque de se procurer des ouvrages en chinois. Donc les débuts du fonds chinois, c'était principalement des grammaires ou des dictionnaires compilés par les jésuites ou bien par les enseignants de l'INALCO. Tels que vous aviez Antoine Bazin, Stanislas Julien, Kleskowski, Gabriel Deveria et Arnold Vissière, donc, qui ont commenté des textes, rédigé des lexiques, des grammaires, etc.
Donc à la fin du 19e siècle, en gros, on a 300 volumes.
Alors en fait, oui, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'en fait, en 1867, pour toutes les langues qui sont enseignées à l'ancêtre de l'INALCO, en fait, on n'a que 300 volumes dans la bibliothèque pour toutes les langues. Donc pour le chinois, je ne peux pas vous dire, mais ça doit être 20 documents peut-être. Et alors arrive à la tête de l'INALCO Charles Schaeffer, qui réorganise tout et qui a un collègue bibliothécaire carrière qui décide donc de booster, si on peut dire, les acquisitions. Et met en place un système de correspondants, donc pour toutes les langues enseignées, des correspondants dans les pays envoient des ouvrages. Il y a un système d'échange qui se met en place. Et à l'époque, pour le chinois, la bibliothèque a des correspondants à Guangzhou, Chongqing, Pékin et Shanghai. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de documents édités dans ces régions pour la fin du 19e siècle. Voilà, alors après, les acquisitions vont avoir...
Après, ça commence à augmenter rapidement. En fait.
Pas vraiment, en fait. Non, ça va être assez chaotique. Ça va être assez chaotique jusqu'en 1978. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire chinoise, ils savent un peu pourquoi. Disons que jusqu'en 1945, la politique chinoise est quand même... Enfin, l'histoire chinoise est assez mouvementée. Par ailleurs, en France... Vous avez la Seconde Guerre mondiale qui fait que les Français pensent à autre chose qu'à acheter des documents chinois. Et ensuite, vous avez la fermeture de la Chine. Donc, en fait, les acquisitions ne reprennent de manière un peu régulière que dans les années 60. Et c'est sans doute dû à la reconnaissance officielle de la Chine par la France en 1964, je crois. Mais le vrai boom, c'est effectivement l'ouverture en 1978. Puisque là, c'est aussi une réponse à une demande, puisque l'enseignement des Chinois reprend, surtout les études sur la Chine en Occident reprennent, puisqu'on a un accès beaucoup plus facilité, tout simplement, aux réseaux éditoriaux chinois. Et là, le problème n'est plus de se procurer des documents en chinois, mais de savoir comment sélectionner parmi la masse croissante de documents qui sont publiés en Chine. Pour vous donner une petite idée, en 1975, vous avez à peu près 12 500 documents édités par an, enfin dans l'année, et en 2010, vous aviez 450 000 parutions en Chine.
Donc ça, c'est assez compliqué. Du coup, ça complique le travail des acquéreurs sinisants. Et alors, aujourd'hui, si on revient sur les fonds, vraiment maintenant, comment sont-ils organisés? Enfin, dans quelle mesure les fonds qu'on trouve à la BULAC reflètent l'édition chinoise?
Alors, il faudrait 2 heures pour parler de ça, mais les points forts de nos collections, c'est principalement, et en premier lieu, la littérature, entre autres parce que la littérature a toujours été utilisée comme corpus et est toujours utilisée comme corpus d'enseignement. Donc tout ce qui est littérature chinoise et critique littéraire a toujours fait l'objet d'achats continus en fonction de la capacité d'acheter qu'avaient les gens à l'époque. Ensuite, l'histoire, bien sûr. Pourquoi ? Parce que l'école spéciale des langues orientales vivantes voulait former des interprètes qui souvent après travaillaient au ministère des Affaires étrangères comme consuls. Donc tout simplement, il fallait qu'ils sachent parler chinois et puis il fallait qu'ils connaissent l'histoire de la Chine. Enfin, l'histoire, les mœurs et coutumes, le droit chinois, etc. Après l'histoire, c'est la philosophie et la religion. La philosophie principalement parce que tout ce qui est les classiques de la pensée chinoise ont toujours c'était un des centres d'attention, d'intérêt pour les Occidentaux. Donc tout ce qui est classique de la pensée chinoise et toutes les gloses et exégèses qui s'en sont suivies. Bizarrement, la linguistique n'est pas du tout pas un point fort des fonds de la BULAC. C'est une discipline que l'on essaye de développer, mais surtout autour de l'apprentissage de la langue et des différentes langues qu'on parle en Chine. Donc là, c'est vraiment un axe de développement futur d'acheter sur les langues des minorités chinoises.
D'accord. Et on n'a pas parlé du fonds ancien. Alors, je vais vous en montrer quelques exemples.
Vous n'avez pas parlé de l'art.
Oui, parce qu'en fait, l'art n'est pas du tout un des axes de notre politique documentaire. On en achète quelques ouvrages, bien sûr, mais c'est plus pour, on va dire, le niveau étude, qui est également un espace d'apprentissage pour les étudiants, mais aussi un espace de découverte pour un public éclairé. Il faut savoir que justement, je parlais tout à l'heure du boom qui a eu lieu dans les années 70. à la fin des années 70, ça a poussé les bibliothécaires, en fait, les différents bibliothécaires des établissements sinologiques parisiens, de mettre en place un partage documentaire. Et donc, vous savez qu'il y a plusieurs établissements sinologiques sur la place de Paris. Et donc, l'art, typiquement, est censé être assuré par le musée Guimet et par le musée Cernuti. De même, tout ce qui va être religion, archéologie, ethnologie, épigraphie, c'est plutôt l'école française d'Extrême-Orient. Tout ce qui est histoire contemporaine, bon, nous on a aussi l'histoire contemporaine, mais les sciences sociales, l'économie, le droit, c'est le centre d'études sur la Chine moderne contemporaine. Les études classiques, c'est à l'Institut des hautes études chinoises, la linguistique au CRLAO, au LCAO on a aussi de la linguistique et des sciences sociales. Enfin voilà.
Donc en gros,
il y en a encore d'autres, il y a la BNF. Ouais. Enfin bon.
Mais donc quand on étudie, en gros, il faut vraiment fréquenter l'ensemble de ces établissements, voilà, en fonction des disciplines qui...
C'est-à-dire que dans nos disciplines, si vous trouvez des choses qui manquent, ben, bienvenue aux suggestions, bien sûr. Mais les déséquilibres du libre accès, vous trouverez très peu de choses en sciences et techniques, très peu de choses en art, pour l'instant très peu de choses en archéologie et en religion, ça reflète tout simplement le partage documentaire. Puisque, comme je vous disais, 450 000 parutions par an. Bon, dans les 450 000, il faut compter qu'il n'y a que 250 000 qui sont des nouvelles
publications.
Le reste, c'est beaucoup de rééditions. Mais ça exige de la sélection, puis de se partager les axes d'excellence, parce qu'on ne peut pas tout acheter.
Alors, peut-être avant de parler du fonds ancien, peut-être qu'on pourrait revenir sur les périodiques. Parce qu'on parle souvent, quand on travaille, enfin quand on présente des fonds, on parle souvent, en fait, on parle souvent des monographies, mais en fait, il y a une grosse partie des fonds aussi qui sont en fait des revues. Alors, quel type de revues on trouve à la Bulac? On voulait vous présenter déjà quelques revues en langue chinoise.
Donc, oui,
là, on ne voit pas très bien, ouais.
Ouais. Bah, en fait, là, à l'écran, vous voyez des couvertures de périodiques qui sont en libre accès. Et donc, les collections de périodiques en libre accès se trouvent au Red Jardin, juste en face de la banque de prêt, en fait. En libre accès, on a quelque chose comme 98 titres
en libre accès recherche.
C'est en général les 10 dernières années. Ensuite, en mezzanine, en fait, vous avez aussi des périodiques, mais sont plus des revues, en fait, des revues d'actualité.
Comme Perspective chinoise, Monde chinois.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas la liste entière en tête, mais bon.
Autrefois, on avait des quotidiens à Dauphine, mais pour l'instant, pour des raisons de conditionnement, vous n'y avez pas plus vraiment accès, à part en les demandant en magasin, ils sont toujours là.
Et ça couvre effectivement beaucoup de disciplines, en fait, autant littérature que
Est-ce
histoire.
Est-ce que tu pourrais présenter un peu la sélection qu'on a?
Donc, alors, qu'est-ce qu'on a là?
Donc, pour commencer, une revue d'art.
Donc là, c'est la couverture de Meishu, qui est effectivement une revue d'art. Ensuite, en dessous, on a Fang Yan, c'est ça?
Oui.
Fang Yan, qui est plus spécialisé sur les dialectes chinois.
Et donc, ce sont des revues éditées en Chine?
Oui, ce sont des revues éditées en Chine et en chinois. Tongbao, qui, par contre, n'est pas... n'est pas en chinois, et c'est vraiment axé sur l'histoire, les langues, la géographie et l'ethnologie.
Ah oui, une petite erreur de...
Et donc Tushu, comme on a vu tout à l'heure, qui est donc un critique littéraire.
D'accord. Je ne sais pas, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'usage que vous faites de ces périodiques dans le cadre de vos enseignements. Il y a aussi ces périodiques naturellement en anglais, qui sont bien connus.
Oui,
China Quarterly.
Donc China Quarterly, qui est un des périodiques qui était le plus consulté à Dauphine. C'est plus sur les généralités, en fait.
D'accord. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le suivant a disparu. Et donc, pour finir...
Études chinoises, perspective... Non, c'est ça
Perspective chinoise.
Perspective chinoise, oui, c'est sur la Chine contemporaine, en fait, les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels.
Alors ça, c'est au niveau mezzanine.
Oui, ça, c'est au niveau... Perspective chinoise, oui, c'est au niveau mezzanine. Oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dans les magasins 700 titres de périodiques chinois, dont 78 titres vivants. Alors, périodique mort, périodique vivant, ça veut juste dire qu'il y a des périodiques qui ne... Enfin, des périodiques qui ne paraissent plus dans l'édition éclose.
Alors, hélas, on a encore une petite demi-heure. Peut-être qu'on peut parler un petit peu du catalogue pour expliquer un peu la spécificité du catalogue par rapport au chinois.
En fait, le catalogue de la Bulac, Soline peut me corriger si j'ai tort, mais je crois que c'était un des premiers qui était en biécriture. Donc, ça veut dire en chinois et en pinyin. Mais vous avez peut-être remarqué que le pinyin était appauvri, c'est-à-dire qu'on n'a pas les tons, ce qui est assez pratique parce que ça prend beaucoup de temps sinon. mais aussi, donc on a des problèmes de translittération, effectivement. On a des problèmes d'indexation parce qu'en fait, on utilise l'indexation Rameau, qui n'est pas nécessairement très... Comment on appelle ça ? Très... J'arrive pas à trouver mon nom. C'est pas forcément une bonne indexation pour les études chinoises parce que c'est en général pour des études occidentales.
D'accord.
Mais bon, je veux dire, le travail de traitement des fonds, en fait, c'est pas seulement du catalogage. Disons qu'après le catalogage, il y a encore le traitement physique du livre qui est fait par le service de la le pôle conservation. En fait, s'il s'agit de. Disons que si jamais on met un livre en libre accès, il faut qu'il soit assez solide pour qu'on puisse le manipuler tous les jours, en fait. Donc c'est pour ça que entre la commande et la mise en salle de lecture, il peut s'écouler 5-6 mois, je pense.
Ouais. C'est pour ça qu'on vous conseille d'être le plus de ne pas hésiter à nous suggérer à nous faire des suggestions puisque comme Soline et Datoué le disaient, il y a une telle masse de publications qu'on ne peut pas tout couvrir et donc vous êtes invités à leur envoyer directement des suggestions. Alors du coup, est-ce qu'on passe au fonds ancien ou pas ? Parce que là du coup c'est un petit peu décousu.
Oui.
Ou alors on revient sur les acquisitions, on finit sur les acquisitions, on terminera sur le fonds ancien, je propose. Peut-être qu'on enchaîne un peu sur le processus d'acquisition.
Alors pour les acquisitions, on en parlait rapidement tout à l'heure en disant que la difficulté c'était d'arriver à sélectionner parmi les 250 000 nouvelles parutions qu'il y avait chaque année en Chine. Sachant qu'il y a une difficulté supplémentaire qui s'impose à nous, c'est que nous fonctionnons avec le système de marché public, c'est-à-dire que nous avons obligation de passer par un seul fournisseur. Donc pour la Chine, ça pose des problèmes parce que on devait, pendant des années, on a fonctionné avec un fournisseur de Chine continentale, avec les inconvénients que ça peut avoir, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir accès à tout ce qui est édition sous le manteau, ou édition de Taïwan, ou édition de Hong Kong. Donc là, on est très content parce que depuis cette année, on a un fournisseur pour Taïwan, un fournisseur taïwanais en plus du fournisseur de Chine continentale, et qui pourra nous fournir des documents de Hong Kong.
Mais est-ce que ça veut dire que jusqu'à cette année, on n'arrivait pas à acquérir des ouvrages de Hong Kong ou de Taïwan ?
Non, il y en avait parce que le système du marché public est arrivé assez tardivement. Je ne connais pas les dates. Moi, il était déjà en place quand c'est arrivé,
2000,
mais je crois que c'est 2002,
voilà, c'est ça.
Par ailleurs, on a des dons et des échanges. On fonctionne aussi par dons et par échanges, et heureusement. On a un échange systématique depuis des années avec la Bibliothèque nationale de Taïwan qui nous envoie des listes sur lesquelles on choisit les documents qui nous intéressent. Alors au début, c'était assez, même si c'est Taïwan, c'était aussi de la propagande. Mais depuis quelques années, ça c'est de plus en plus sérieux. Ce sont vraiment des ouvrages de niveau académique. Donc on en profite beaucoup. Avec l'université chinoise de Hong Kong aussi, nous avons des échanges. Et puis, il y a aussi des chercheurs ou bien des institutions qui nous font des dons. En 2004, je crois, on a eu un gros don du bureau de représentation de Taïwan qui fermait, je ne sais pas si vous le saviez, mais ils avaient des bibliothèques et ils les ont fermées. Et donc, ils ont fait le don de leurs documents à plusieurs bibliothèques. Et donc, nous, on a eu une partie de ce don. C'était principalement de la littérature ou de la sociologie taïwanaise des années 70 et 80.
D'accord.
Voilà.
Et alors du coup, j'en profite pour faire la transition avec Vincent Durand-Estes. Comment avez-vous travaillé avec les bibliothécaires et les conservateurs de la BULAC ?
Oh, de tas de façons assez diverses. On a, j'envoie régulièrement des emails. Là, je reviens de Chine la semaine dernière. J'ai relevé sur quelques feuilles de papier un certain nombre d'ouvrages dont je sais maintenant qu'ils sont disponibles parce qu'on les trouve dans les librairies chinoises actuelles et que je vais transmettre à mes collègues en suggérant un achat rapide.
Vous avez aussi travaillé sur la méthodologie, par exemple ? Enfin, sur les cours de méthodologie enfin, je veux dire, quelle est la nature de vos relations ? Comment on travaille quand on est enseignant-chercheur avec...
Oui. On a fait appel à plusieurs fois à Soline, à vous, Mélanie aussi, pour intervenir auprès des étudiants, pour présenter les fonds, présenter la recherche documentaire, tout ce qu'ils ont fait, c'est une expérience qui est déjà en cours depuis bien 2 ou 3 ans. Hein, et l'une comme l'autre, vous avez participé à l'époque des Dauphines et déjà dans nos nouveaux locaux.
Voilà. Et donc, quels sont les fonds que vous utilisez à la BULAC plus précisément ?
Bien, quand on travaille en sinologie, on ne peut pas être un époux fidèle d'une bibliothèque. On est plus ou moins polygame sur la place parisienne, parce qu'effectivement, il y a 5 ou 6 centres importants. Hein. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a des progrès extrêmement sérieux qui ont été faits récemment, notamment autour de la BULAC par un catalogue collectif. C'est quelque chose qui, je pense, n'a pas encore été dit, mais le fait que la BULAC, même si physiquement, elle ne concentre pas tout ce qu'elle aurait pu concentrer comme fonds, son catalogue informatisé et aussi la porte des fonds de l'École française d'Extrême-Orient, du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine, ceci est un immense progrès. Et même si il n'y a pas regroupement physique, il y a déjà un regroupement intellectuel qui permet une recherche tout à fait utile. Alors ensuite, dans notre butinage documentaire, eh bien nous apprenons dans le milieu sinologique, nous apprenons à voyager de bibliothèque en bibliothèque et nous apprenons les points forts également. Alors, évidemment, nous sommes aussi liés institutionnellement davantage à certaines bibliothèques. Et en tant qu'enseignant-chercheur de l'INALCO, ma loyauté première va plutôt vers la BULAC. Et c'est vers la BULAC que je me tourne pour beaucoup de... notamment pour un certain domaine d'acquisition. Alors, il se trouve que dans mon domaine, il y a une tradition qui a déjà été lancée par des demandes qu'avait fait mon professeur Jacques Pimpano, qui avait lancé une série de demandes d'acquisition en ce qui concernait la littérature populaire et la littérature en langue vulgaire, qui était assez largement commencée depuis déjà 20-30 ans, enfin au-delà, et des demandes de poursuite d'achat dans cette direction ont en général été tout à fait bien accueillies. Et là, il y a autour de moi sur la table plusieurs, par exemple l'acquisition d'une des publications récentes concernant la littérature et les arts populaires en Chine continentale. Je pense que c'est Pimpano qui avait commencé à demander ses premières acquisitions. On a revu ça récemment, inclus les nouveaux titres, les nouvelles séries, des séries sur les danses populaires, sur les contes populaires, sur les proverbes, les légendes. Nous sommes également les seuls sur la place parisienne à posséder la collection complète des facsimilés des romans en langue vulgaire ancien, hein, qui contient plusieurs milliers de titres reproduits dans leurs éditions originales. Dans le bon sens, ça va mieux. Donc tout cela fait quelque chose qui est très précieux et qui est propre à la Bulac, hein, même si elle ne représente qu'une part de l'offre documentaire parisienne. Elle en est une part importante et qui a ses points forts, et elle est également au cœur de l'entreprise du catalogage collectif et du repérage de l'ensemble de ces fonds. Il n'y a plus guère que la bibliothèque du Collège de France d'un côté, la bibliothèque du musée Guimet d'autre part, qui sont sur des réseaux extérieurs et distincts, et donc ceci, je tiens à le souligner, est un très très grand progrès.
D'accord. Et est-ce que, alors, avec l'ouverture de la Bulac, on a maintenant les étudiants et enfin les lecteurs de la Bulac ont désormais accès à des bases de données. Est-ce que vous les utilisez ou pas?
J'en ai souhaité demander l'achat et la mise à disposition. C'est quelque chose. C'est trop récent et nous sommes trop récemment dans un bâtiment encore trop mal câblé pour que nous ayons réellement pu commencer à nous en servir. Mais c'est un des éléments extrêmement importants parce que c'est quelque chose de très délicat parce que la Chine et notamment la Chine populaire et Taïwan et Hong Kong à E3 ont une offre de base de données qui est extrêmement riche, qui sont en général de très bonne qualité, qui couvrent des domaines très variés et qui peuvent être aussi extrêmement chers.
Et puis aussi parfois un tout petit peu redondante, mais avec des petites différences, qui fait que c'est parfois difficile de choisir une base par rapport à une autre. Parce que notamment entre je pense à OneFang Data et CNKI, où on peut trouver d'excellentes choses dans l'un comme dans l'autre, et c'est difficile de faire le choix. On ne peut pas acheter les deux. Mais il y a quelques revues qu'on voudrait chez OneFang Data qui ne sont pas chez NKI, et puis en même temps quelques-unes qu'on veut chez CNKI qui ne sont pas chez OneFang Data.
Est-ce que vous pouvez justement, vous remarquez que justement les problèmes de câblage sont jusque dans l'auditorium, le réseau n'est pas encore brassé ici. Donc je vous ai fait des copies d'écran, des bases en fait chinoises qui sont accessibles à la Bulac. Est-ce que vous pouvez les présenter ? Pour détailler un peu le type de documentation qu'on va pouvoir consulter sur chacune d'entre elles. Donc là, c'est CNKI.
Alors, notre grande victoire, c'est d'avoir réussi à acheter le CNKI. Enfin, quand je dis le CNKI, on a acheté que quelques bases du CNKI, donc c'est-à-dire Chinese Academic Journals et le Century Journal Project, c'est-à-dire une base de données d'environ 4000 revues. Publié entre les années 1910-1915 jusqu'à maintenant. Et donc, on peut y avoir accès en salle de lecture depuis les postes publics.
Il y a combien d'accès, en fait, simultané ?
Oh, il y en a plein.
C'est illimité.
C'est illimité.
Parce qu'il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, ça coûte combien d'acheter ? Est-ce que je ne sais pas si tu as les...
Alors, normalement, c'est confidentiel.
Non, mais c'est souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros, coût de la consultation d'une base. Donc, c'est vrai que c'est en plus proportionnel souvent au nombre d'utilisateurs. Donc, c'est un coût très, très important pour une bibliothèque.
Alors, précisons une fois encore que les ressources comme ça de... Les ressources électroniques qui proposent des revues et des articles proposent des bouquets qu'on ne peut pas tout acheter et que donc nous on a choisi d'acheter dans les disciplines qui recouvrent nos domaines, c'est-à-dire tout ce qui est sciences humaines et sociales, littérature, linguistique, économie, droit. Tout ça, on n'a pas acheté les bouquets pour les sciences, les mathématiques, etc. C'est assez logique en fait.
Donc là, c'est NKI, c'est sur toutes ces disciplines-là.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, petit aspect pratique, sélectionnez China Academic Journals pour faire vos recherches, parce que c'est là où vous allez avoir accès à tout. Ouais. Même si vous avez deux entrées, sélectionnez plutôt China Academic Journals. Et juste une bonne nouvelle pour l'avenir, c'est que l'année prochaine, à la fin de cette première année de fonctionnement, la Bulac sera normalement en mesure d'offrir l'accès distant pour les enseignants-chercheurs, mais aussi pour les étudiants. La raison pour laquelle on n'a pas pu le faire maintenant, c'est qu'il fallait se constituer une base de lecteurs, et que pour l'instant, la base de lecteurs, on est en train de se la constituer. Donc, normalement, à l'horizon 2013, on devrait avoir l'accès distant.
Sera en place. Alors, il y a une autre spécificité, on a commencé à acheter des livres électroniques aussi.
Pardon.
Oui.
J'ai pas entendu en fait.
Non, en fait, je disais qu'on avait commencé à acheter des livres électroniques. avec la sélection Bril.
Oui, oui, effectivement, la collection Bril qui donc représente 300 ouvrages parus chez Bril sur toutes les études sur l'Asie en fait depuis 2007.
Et ce sont des ouvrages qu'on peut télécharger ou pas ?
Oui, je crois, oui, oui.
Ouais. Vous irez essayer.
En fait, il y a une présentation en fait des ressources électroniques
sur le site.
Je pense à la fin du mois.
Ah, et en plus à la fin du mois, voilà.
Oui,
donc on vous invite à vous y inscrire pour en connaître tous les détails. Alors là, cette base-là, je ne vais pas prononcer le nom parce que je vais sûrement mal le prononcer, donc c'est.
Sukou Chuanzhou. En fait, c'est effectivement une compilation qui a été faite sous les Qing des classiques chinois en fait.
Donc de toute la littérature chinoise.
Et de toute la littérature, effectivement.
Et la dernière base, je ne sais pas... Non,
mais que tout le monde a en édition piratée chez toi quand il fait des recherches sur le Sukou Chuanzhou. Donc en fait...
D'accord, donc ça ne sert à rien, c'est ça. Et Asian Studies, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot.
Bon, c'est juste une base bibliographique en fait sur les documents de référence qui, je crois que c'est à partir de 71.
Ça donne des références bibliographiques, là on n'a pas d'accès au texte intégral.
D'accord. Alors, c'est vrai que ça va très vite, là. Enfin, on parle vraiment de plein de choses à la fois. Peut-être qu'on fait un petit point sur le fonds ancien.
Bah, en fait, c'est pas tellement sur le fonds ancien.
Enfin,
c'est plutôt sur... pour l'instant, bon, je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui... des lecteurs qui ont voulu consulter des ouvrages de la réserve. Mais les ouvrages de la réserve, pour l'instant, ne sont pas consultables. Ils seront consultables lorsque la salle de la réserve sera ouverte, ce qui, paradoxalement, se manifestera par sa fermeture, puisqu'on mettra une grille pour que ne puissent entrer que les personnes habilitées à toucher des vieux documents. Et alors, pour le chinois, c'est un petit peu difficile d'en parler précisément, parce qu'à l'époque de la sélection... Pour la future réserve, il n'y avait pas de spécialistes du chinois et donc ils ont tout simplement pris toutes les anciennes cotes.
Tu veux dire de spécialistes des fonds anciens ?
Oui, des fonds anciens. Et donc, moi je me suis aperçue rétrospectivement que parmi les ouvrages qui avaient été sélectionnés pour la réserve, il y avait des ouvrages qui n'avaient rien à faire à la réserve puisqu'ils avaient été publiés dans les années 1980 ou 1970. Donc il y aura une sélection à refaire. Qui prendra, je pense, beaucoup de temps. Ce qu'on peut dire, c'est que, disons que le point phare de ce fonds ancien, même si, enfin, en tout cas, ce qui est le plus connu et à la fois le moins connu, ce sont les manuscrits Nashi et Yi que nous conservons dans la bibliothèque. Bon, alors, c'est sûr que par rapport à ce qu'il y a, je crois, à Harvard, c'est ridicule, mais nous avons quand même 25 manuscrits Nashi.
Ça, c'est du Nashi ou pas ?
Non, ça, c'est du Yi.
Ah oui.
Bon, alors, j'ai l'air sûre de moi, mais je suis incapable
ça,
de lire
du...
et le Nashi.
Ça, c'est
et
du Nashi ou pas ?
Alors dans, chez les Nashi, qui est une ethnie, présente dans le Yunnan, vous avez en fait deux écritures qui vont de pair. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais... Et vous avez surtout l'une des seules, voire la seule, ça je ne me prononce pas, écriture pictographique encore utilisée de nos temps. Alors évidemment, ce n'est pas utilisé pour tenir ses comptes et pour s'envoyer des lettres, mais c'est plutôt pour coucher par écrit les mythes et légendes de l'ethnie Nashi. Et elle va de pair avec un syllabaire qui sert... à coucher par écrit les mantras ou à noter les manuscrits pictographiques. Donc l'écriture pictographique, c'est l'écriture Dongba. L'écriture syllabaire, c'est l'écriture Geba. Il y a un petit article là-dessus sur le site.
Tout à fait. Alors le Geba, c'est celle qu'on a vue au tout début. C'est un peu...
C'est la même forme, c'est une forme de petit cahier.
C'est ça, tu me contredis.
Oui. Et là, qui est annoté en caractère chinois, puisque les personnes qui ont... C'est des dons qui ont été faits à la bibliothèque à la fin du 19e siècle, notamment certains par Philippe d'Orléans, je crois. Non, c'est plutôt les Yi, Philippe d'Orléans, je sais plus.
Et les Yi, ce sont ceux en noir et blanc qu'on a vus.
Alors par contre, les Yi, je ne peux rien en dire parce que...
Voilà, c'est ça, les Yi.
Ils sont dans un état...
Oui, ils sont dans un très mauvais état.
Assez mauvais. Donc il y a un projet de numérisation mais avec lequel il va falloir que l'on travaille avec des spécialistes du I. Donc si vous en connaissez, voilà.
D'accord. Et en fait, peut-être qu'on pourrait finir sur les projets. Je ne sais pas si Vincent, tu veux en dire un mot. Il y a deux projets qui sont organisés en 2013. Je pensais au congrès de... Non ? European...
Oui. Non, c'est assez ponctuel, mais puisque le double congrès de l'Association européenne des études chinoises et de l'Association européenne des bibliothécaires sinologues sera hébergé en septembre dans les locaux du pôle et dans les locaux de Paris Diderot conjointement. Et donc il y aura un volet bibliographique et bibliothécaire qui sera hébergé ici. Donc c'est un congrès qui a lieu annuellement et qui fait partie de ces structures de contact et d'échange entre bibliothécaires sinologues qui existent tant au niveau de l'Europe qu'au niveau français, au niveau national, qui sont extrêmement importantes pour justement répartir les acquisitions dans un monde où l'offre bibliographique devient extrêmement abondante, parfois très coûteuse, et où donc les contacts, les échanges et le fait de savoir si tel produit électronique est de qualité ou pas, de la prendre de la part d'un collègue qui a pris le risque de l'acheter, savoir si l'on peut se joindre à cela, tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Voilà, mais il s'agit d'une... Alors, c'est un contact permanent, mais en septembre prochain, cela aura lieu à Paris. Donc, vous aurez peut-être l'occasion, si ça vous intéresse, d'écouter certaines choses, certaines interventions qui nous informeront peut-être sur ces réalités-là. Voilà.
Voilà. Après, on a deux autres petits projets que Vincent a oubliés, pourtant il est concerné. C'est, il y avait un projet de rédaction de manuel de méthodologie, je crois, en commun avec le département chinois. Et puis, il y avait aussi un projet de présentation plus, on va dire,
plus poussé.
Poussé scientifique du fonds chinois qui donnerait lieu à la publication d'un article. Et ça serait plutôt pour l'automne prochain. Donc, revenez en automne prochain.
Ça fera partie de la...
Si vous voulez découvrir les secrets du fonds chinois.
Et alors, naturellement, vous avez peut-être des questions. Si vous voulez les poser, c'est maintenant. Non. Oui. Ah, attendez.
En fait, on enregistre. C'est pour ça que je vous avais
montré. Le Tianjin, le Rima, c'est ça qui est montré là. C'est ça que ça sort. Voilà.
C'est l'architecture qui a été du 12e, qui a été.
Vous avez dit qu'on n'avait pas. On n'avait pas des ouvrages sur l'art, mais en fait, quand on visite la bibliothèque, on nous montre tout un rayon sur le cinéma en mezzanine, cinéma mondial, chinois entre autres. Ça, ce n'était pas une question. Mais ma question, c'est vous pouvez nous expliquer. Vous pouvez nous expliquer le fournisseur. Vous dites que il faut passer par un marché public. Alors, est-ce qu'il y a un seul fournisseur pour l'INALCO ou un fournisseur par pays? Enfin, combien il y a de fournisseurs en tout?
Alors, on a beaucoup de fournisseurs puisqu'en fait, c'est plutôt des fournisseurs par langue, c'est-à-dire que ou par domaine, on va dire. Enfin, l'acquéreur pour le chinois, on en a deux. Comme je vous l'ai dit, maintenant on a trouvé, on a eu la possibilité d'avoir un fournisseur pour Taïwan et pour la Chine continentale. Vous dire combien de fournisseurs on a, je ne sais pas exactement, mais on en a bien une bonne trentaine, je pense. Il y a d'autres acquéreurs dans la salle, donc je ne sais pas si. Voilà, mais on en a pour le japonais, on en a pour les langues indiennes, on en a pour le thaï, je crois. Pourquoi c'est en hors marché, le thaï.
C'est en marché.
On en a 47.
Non, on n'a pas.
Me dit ma collègue chargée du grec, au fond. Et puis, il faut savoir qu'il y a toujours une marge d'achat hors marché. Donc, pour les langues pour lesquelles on n'arrive pas à trouver de fournisseurs. Parce qu'il faut savoir que ce sont des dossiers quand même assez complexes et que parfois, les fournisseurs, déjà, ne comprennent pas parce que ce sont des dossiers en français et puis mettent un peu de... Enfin, bref, ne répondent pas. Donc, dans ce cas-là, on achète hors marché. C'est le cas pour le vietnamien, pour le mongol.
Pour le thaï.
Pour le Thaï.
Pour le Birman.
Bah pour le Birman, oui.
Enfin, ah oui, mais
on n'achète pas pour l'instant. Mais... voilà.
Ça a été longtemps le cas pour le Birman. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non ? Ah ! De l'autre côté. Non, mais peut-être vous pouvez la poser, puis je...
En fait, je voudrais juste demander comment est-ce qu'on peut consulter les ouvrages électroniques.
Alors en fait, vous allez sur le site de la Bulac. Alors il faut être sur les postes publics de la Bulac, il y en a quand même pas mal. Vous allez sur la page d'accueil de la Bulac. Là, on ne peut pas vous montrer parce qu'on n'a pas accès au réseau. Et sur le gauche, vous avez un menu avec la Bulac, les collections de la Bulac, etc. Vous cliquez sur les collections de la Bulac et ensuite vous avez un sous-menu, les collections électroniques par domaine. Ou les ressources numériques, puis par domaine. Et là, vous cliquez sur Asie et vous allez tomber sur le CNKI, Brille.
Et on peut les voir directement de l'ordinateur. Ou
ah
est-ce
oui
qu'il faut demander quelque chose?
Enfin, comment ça?
On peut juste cliquer sur le lien et ça ouvre tout de suite.
Oui, voilà.
Okay,
si vous avez un problème, vous allez en banque demander au bibliothécaire, mais normalement, c'est assez facile. Et puis, vous pouvez télécharger. Vous envoyer par mail, mettre sur clé USB,
merci
imprimer
beaucoup
quand les imprimantes marcheront. Voilà.
Et c'est pas seulement sur les postes publics, en fait. Sur les postes de lecteurs, quand Internet sera... Quand on aura une connexion Internet sur les postes lecteurs...
Pour l'instant, ça marche pas.
Oui, pour l'instant, mais bon, à l'avenir.
Ok, je sais pas si... Ah, on va me faire courir.
C'est pour te forcer à faire du sport.
J'imagine que le prochain, ça sera par là-bas.
Merci. Alors, moi, je suis étudiant à l'INALCO. Ça fait 3 ans que je fais du chinois. Je veux juste faire une remarque, en fait, c'est que je suis un petit peu déçu par l'ouverture de la Bulac. J'ai bien conscience que les choses sont en train de se construire et j'ai bien conscience que la façon dont je me représente la Bulac, c'est une infime comparée à tout ce qu'il peut y avoir comme document. Simplement, j'ai constaté qu'il y avait très peu, c'est vraiment un détail, mais c'est important. Déjà, je reviens sur les périodiques. C'est vrai que, effectivement, je n'ai pas trouvé les journaux, les quotidiens. J'étais un peu déçu, donc j'aimerais bien que vous me disiez où est-ce que je peux les consulter. Et j'enchaîne juste. Il n'y a pas de chinois de ce Dien sur les étagères. Dictionnaire de caractères, c'est quand même la base. Il y en a un petit. Des dictionnaires chinois-français, il n'y en a jamais en rayon. Tout le monde les prend. Il y en a peut-être 5 au maximum. Et le Larousse rouge, le seul dictionnaire, on va dire, français-chinois pour faire du thème, vous en avez un. Voilà. Merci beaucoup.
Oui. Alors ça, c'est parce que tous ces documents étaient en libre accès à Dauphine. Donc ça, on avait prévu effectivement qu'il y aurait... des appointements de la part des lecteurs et surtout des étudiants, parce qu'en fait, les ouvrages de Dauphine, pour être le plus longtemps accessibles aux étudiants, ont été ceux qui ont été déménagés en dernier. Il faut savoir que vous vous souvenez de l'état des documents de Dauphine, c'était des documents en très mauvais état, et que comme l'a dit mon collègue, un envoi en reliure, ça prend minimum, combien, 2 mois ?
Oui, 2 voire 3 mois.
2-3 mois. Et qu'en fait, tous ces documents, je l'ai montré à certains collègues qui sont moniteurs étudiants à la Bulac, tous ces documents, je peux le dire parce que c'est moi qui les fais, ils sont sélectionnés. Il y a des dizaines et des dizaines de dictionnaires qui sont sélectionnés. Tous les dictionnaires de référence sont sélectionnés, mais ils ne sont juste pas traités par la conservation, c'est-à-dire c'est pas possible de les monter dans les rayons pour l'instant. Mais je peux vous assurer que je suis la première à être extrêmement déçue par cet état de choses, parce que je sais que c'est la chose dont les étudiants ont le plus besoin, bien avant d'avoir une étude sur je ne sais quelle minorité, de je ne sais quelle, voilà. Même si c'est très important aussi, mais... Donc, on a essayé d'accélérer les choses. Mais après, vous savez, c'est des moyens humains aussi. Hein. Mais bon, c'est sûr que c'est les documents qui vont être prioritairement mis en libre accès dès qu'on va pouvoir à nouveau envoyer des documents en reliure. Alors, vous pouvez toujours les... Alors, c'est pas pratique, mais vous pouvez toujours les demander en magasin, par contre.
Donc je me suis amusé à perdre un petit peu de temps, mais je m'excuse pour mes propos, mais je le pense vraiment.
Ah non, mais vous avez raison.
J'ai voulu voir jusqu'où en fait je pouvais pousser le vice de la spécialisation en fait en allant voir chaque personne de chaque bureau différent pour leur demander où est-ce que je pouvais trouver un dictionnaire français-chinois.
De chaque bureau
chaque
différent.
Bureau,
oui, je suis descendu à tous les étages. En fait, on m'a envoyé. Je connais pas les termes techniques, mais on m'a envoyé au deuxième étage, on m'a envoyé au premier étage, on m'a envoyé au sous-sol. Tout ça pour chercher le fameux Larousse rouge.
Mais alors, vous n'avez pas eu les bons interlocuteurs.
Mais simplement,
c'est la première fois que vous
c'est nous.
Par exemple.
Dans les catalogues, c'était pas indiqué en magasin. Vous n'aviez même pas de dictionnaire français-chinois indiqué dans vos catalogues en magasin. Donc c'est là que j'ai.
Si on en a.
Peut-être c'était il y a deux mois. Donc effectivement, les choses bougent très vite.
Ah bah non, on en avait quand même il y a deux mois.
D'accord. Bah, je vous remercie pour avoir écouté ma
remarque. Non, mais il y a pas de problème. Merci. Dans ce cas-là, vous savez, je sais pas s'il y a nos mails.
Non.
Il n'y a pas nos mails.
Vous pouvez retrouver sur le site, en fait, dans la partie collection spécialisée, la référence de mail de tous les acquéreurs spécialistes.
Mais alors, si ça peut vous consoler, mais je ne suis pas sûre que ça vous console, c'est que c'est le cas pour d'autres fonds aussi. Hein.
Oui, moi je voulais faire une petite incidente à propos des dictionnaires, parce que j'avais appris, quand j'ai fait faire ma carte Bulac, que le grand Ritchie était a demandé en réserve. Oh, c'était affreux, quoi. Bon, enfin bref. Alors, c'est changé. Maintenant, il est à disposition.
Oui.
Alors, merci pour ça, parce que je suppose que vous êtes derrière l'initiative. Oui. Mais vraiment, c'était terrible l'idée de pouvoir emprunter un tome du grand Ritchie et puis on est après d'en demander un autre. Enfin, ça n'allait pas du tout. Du tout, ça c'était pour les dictionnaires indispensables, voilà.
Bah oui, mais on fait vraiment ce qu'on peut.
Oui, c'est même moi qui suis allé le chercher en magasin physiquement, madame.
Voilà. Ouais. Mais alors, pour ne pas décourager, hein, toutes les réclamations possibles et imaginables sont à écrire sur les petits cahiers que vous avez en banque d'accueil, sont à nous envoyer, parce que c'est aussi ça qui aide parfois à bouger les choses lorsqu'il peut y avoir... des blocages tout simplement matériels, hein. Parfois c'est indépendant de la volonté de quiconque. Mais c'est vrai qu'on le savait, que pour le fonds chinois, en partie aussi pour le fonds japonais, pour tous les fonds qui étaient en libre accès à Dauphine, il y aurait une déception, parce que, étant donné que ça a été le dernier fonds déménagé, ces ouvrages n'ont pas pu être traités. Donc les seuls documents que les lecteurs avaient l'habitude d'avoir en libre accès sont finalement ceux qui ne sont pas libre accès à l'ouverture de la bibliothèque. Là, c'est vrai que c'est un paradoxe qui est difficile à accepter, aussi bien de la part des chargés de collection que, et surtout de la part des lecteurs.
Je ne sais pas quelle heure il est là. Si, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, encore une question là. Et pour rebondir sur Dauphine et le fameux Larousse pour le thème, je le connais bien, il était en très très mauvais état, donc je pense qu'il a fallu en plus le racheter.
Moi aussi, j'ai été étudiante à Dauphine des années précédentes, et comme vous, je suis très déçue par l'ouverture de la bibliothèque. Et la première chose, les dictionnaires bilingues, eh bien, c'est valable pour toutes les langues, j'ai regardé dans beaucoup. Par exemple, moi, je faisais de l'ourdou, et il y avait au moins 4 dictionnaires ourdou en parfait état reliés à Dauphine. Eh bien, le jour de l'ouverture, il n'y en avait aucun. Alors, quelqu'un a dû réclamer, et finalement, j'ai vu qu'on en avait acheté un autre, alors que probablement les autres sont en magasin. Alors, est-ce qu'on a l'intention de faire remonter des magasins sur...
Ah, bah, bien sûr. Mais oui. C'est-à-dire que si vous voulez. Pour pouvoir remonter, c'est ça qui est, c'est un paradoxe aussi, c'est qu'en fait il y avait un accord tacite comme quoi des documents en mauvais état pouvaient être à Dauphine. Le problème, c'est qu'avec l'ouverture de la bibliothèque, ce n'est plus possible. des documents en mauvais état ne peuvent pas être montés en libre accès. Donc en fait, soit il faut les envoyer à Orlure, soit il faut les racheter.
Oui, mais là, je vous parle de 4 dictionnaires de Kureishi, Standard 20th Century Dictionary, Urdu English. Eh bien, ils sont, je vous assure qu'ils étaient en parfait état, tout à fait reliés. Et le dictionnaire qu'on a acheté au mois de janvier, eh bien, il n'est pas plus récent, il est de 1987. Et il est dans le même état que ceux que nous avions en Dauphine. Alors pourquoi on ne les remonte pas ?
Tout simplement parce que c'est ce que j'expliquais. Ça parce a été, comment dire, le processus de sélection et de prélèvement des documents dans les magasins, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui fait intervenir plusieurs départements de la bibliothèque. C'est pas juste moi qui vais chercher un livre et qui vais le mettre en rayon. Il y a tout un processus de sélection, validation, il faut réétiqueter les ouvrages, changer les cotes, remagnétiser, parfois renforcer, etc. Ça prend du temps. Et qu'en fait, si vous voulez, le paysage du libre accès que vous avez actuellement, c'est un peu la sélection libre accès arrêtée à la fin, on va dire, le début 2010. Début 2010. C'est-à-dire que tout ce que nous avons sélectionné, une grande partie de ce que nous avons sélectionné en 2010, n'est pas encore sur les rayonnages. Mais va l'être, normalement, au cours de cette année, ces vides devraient être comblés.
Oui. Mais d'ailleurs, il y a une bonne partie de dictionnaires et d'encyclopédies qui ont été étiquetés par la conservation, qui sont en cours de...
Voilà.
Et vraiment, les dictionnaires sont en nombre insuffisant. Par exemple, en arabe, il y a beaucoup d'étudiants d'arabe et il y a beaucoup d'étudiants de langue qui utilisent du vocabulaire arabe. Or, le dictionnaire de base de l'étudiant, c'est le Daniel Regl Larousse. Eh bien, il n'y en a que 3 exemplaires et il n'y a qu'à 8 heures du soir qu'on le trouve, alors que je suppose en magasin, sur les 8 environ qu'il y a en magasin, ils ne sont pas tous en mauvais état. Et ça vaut pour plein de langues.
Alors, ce que je disais, c'est que même si c'est pas pratique, il faut pas hésiter à demander.
Oui, c'est ce que je vais faire.
Voilà, le dictionnaire en consultation.
Mais est-ce qu'on pourrait peut-être pour revenir au cas de Dauphine, est-ce qu'il serait peut-être encore possible, je demande ça à mes collègues sans savoir, mais de placer comme une priorité de retrouver le plus rapidement possible l'état des usuels, au moins les usuels qui étaient présents à Dauphine. Est-ce qu'il serait possible de demander le lancement d'un programme urgent, c'est-à-dire que les usuels qui doivent être reliés soient reliés en priorité, c'est-à-dire passent devant d'autres ouvrages, que ceux qui ne peuvent pas être reliés soient l'objet d'un programme d'achat et qu'on essaye de fixer un objectif, c'est-à-dire que je comprends bien qu'il y a des contraintes, mais que par exemple, les usuels présents à Dauphine soient tous retrouvés le libre accès au plus tard pour la rentrée prochaine. Est-ce que c'est jouable? Parce que c'est vrai que je comprends très bien, et Soline et Datway et Mélanie m'ont expliqué les blocages qu'il y a pu avoir de part et d'autre, mais là je pense que il y a tout de même quelque chose où on peut sentir un véritable sentiment d'urgence, et je crois que est-ce qu'on ne peut pas envisager tout de même qu'il y ait quand même une certaine mise en priorité quand même de cette... parce que c'est vrai que c'est une nous sommes une école de langue vivante, l'idée d'une la régression par rapport à ce qui était présent dans les antennes est comme vous le voyez d'un très très mauvais effet. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire monter, je sais bien qu'il y a des tas de priorités, mais de faire monter dans le rang des priorités par exemple cette question au moins des usuels, par exemple.
Je vais me permettre, Soline Datouy, de vous répondre. Donc, je me présente Tiffaine Vaquet, je suis directeur adjointe donc, de la bibliothèque. Donc le programme d'urgence que vous avez lancé, enfin dont vous parlez à l'instant, c'est la façon dont les équipes travaillent depuis le mois de septembre, depuis le 7 septembre, jour de leur installation effectivement dans la bibliothèque. C'est-à-dire que le paradoxe dont parle Soline, nous en avions donc bien conscience, et l'objectif principal de mise à disposition des dictionnaires et des manuels, là on a parlé des dictionnaires, on pourrait aussi parler des manuels d'Isabelle Rabu aussi, dont on nous a beaucoup parlé pendant la période des examens, c'est évidemment la façon dont on travaille actuellement, c'est-à-dire des priorités fixées sur les sélections qui ont été faites en 2010, en 2011 et qui ne sont pas encore parties chez le relieur, et puis un renouvellement des collections. Le processus dont parle Soline, il est lent, non pas parce qu'il serait mal conçu ou autre, mais parce qu'on parle là des dictionnaires ourdous et des dictionnaires arabes. Mais comme le disait monsieur, effectivement, on est dans cette situation similaire, effectivement, pour les autres fonds, les fonds d'Europe centrale, orientale et balkanique, etc. Quoi. Mais c'est un engagement, effectivement, qu'on a pris déjà de longue date, ce programme d'urgence dont vous parlez. Hein. Voilà. Rassurez-vous.
Bon, eh ben, je sais pas. Je propose que sur cette note rassurante, on termine cette rencontre. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer vos questions à nos acquéreurs. Et sinon, je vous signale la conférence du 21 février avec Christian Grataloup autour du thème de la construction historique des frontières et intitulée « Les découpages du monde ». Bonne soirée.